rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, c'est votre énervé qui fait coup double chaque soir, je vous explique. Ça commence à 18h sur franceinter.fr et en podcast, une sorte d'avant-première, oui, avant le 22h minuit, à l'antenne, comme tout le monde. Au menu ce soir, du Canard à l'Orange, un classique du théâtre de boulevard, pimpé par Nicolas Briançon dans le rôle du mari infidèle et roublard, et électrisé par François Vincentelli, l'amant beau gosse à l'accent belge, une fois. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
À vos côtés, David Goudreau, un autre accent, celui du Québec, et ça s'entend aussi quand on le lit. Il signe La Bête et sa cage, le roman portrait d'un petit serial killer en prison qui se rêve en caïd, signe particulier incendant, et ce n'est pas une métaphore. Sodomie, assassinat et cantine au programme d'un roman porté par un style nerveux et une belle écriture imagée. David Goudreau, bonsoir.
Bonsoir à vous.
Retour gagnant pour Soro Solo, c'est mercredi, jour de l'Afrique en solo de la chronique, ce soir direction le Mali.
Exactement, pour faire découvrir Omiri, le cinquième album du malien Bassekou Kouyaté et son band le Ngoniba, qui est une formation composé uniquement d'Ngoni, un luth à trois cordes qui est très populaire au Mali.
Il fait tous les gestes, c'est pas très radiophonique, mais c'est comme ça. Et dans le énervé la suite, ça marche pour le climat, Christophe Bourseiller.
Oui,
ça vous rassure?
Ça me rassure énormément. Alors bien sûr, vous l'avez compris, je vais faire venir donc un CP, ensuite un élève de CM2, puisque ce sont des gens très jeunes qui marchent pour le climat, donc c'est naturel. Non, non, en réalité, il y aura Clément Sénéchal, qui est certes jeune, c'est pas de sa faute, mais qui est surtout membre de Greenpeace France. Il y aura Marine Denis,
horriblement jeune
qui est horriblement jeune et qui est surtout membre du collectif Notre Affaire à Tous. Ils ont sorti une brochure dont tout le monde parle, le Manifeste pour une justice climatique. Ça, oui, vous l'avez lu, je vous l'ai donné tout à l'heure.
Tout à fait.
Enfin bref, Jean-Louis Etienne, lui, il est moins jeune, il sort un livre qui s'appelle Oser l'autonomie. Et puis Daoud Bouguezala, lui, il dénonce la religion du climat et il est rédacteur en chef de Causeur.
Vous serez avec nous?
Et moi, et vous?
Oh, et
surtout
oui.
Vous, surtout vous.
Merci. Allez, le énervé, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Boulevard et cauchemar ce soir au programme avec vous trois, Nicolas Briançon, François Vincentelli au théâtre avec Le Canard à l'Orange et puis un roman, le deuxième d'une trilogie qui a déjà été publiée au Québec pour vous David Goudreau, La Bête et sa cage. Je voulais juste vous présenter David Goudreau, c'est le premier Québécois à remporter la Coupe du Monde de poésie. Ça consiste en quoi?
Compétition.
Pas qu'il y avait une Coupe du Monde.
Oui, absolument, qui se tient à Paris d'ailleurs, qui est une compétition de slam finalement.
C'est ah,
poésie.
C'est du slam.
Ouais, voilà. Mais j'ai publié aussi en vers libre. J'écris pas du tout de la même façon quand je dois être lu ou entendu. C'est deux écritures très différentes pour moi. Mais la Coupe du Monde de poésie, donc, c'est vraiment au niveau de l'oralité. Voilà.
Qu'est-ce que vous aviez présenté?
Des textes, je pense que c'était la variété du contenu qui m'avait permis de remporter ce prix. Donc, il y avait des trucs beaucoup plus personnels, des trucs politiques, même souverainistes pour le Québec. Je crois que les Français ont une sensibilité à cette lutte qui est nôtre. Et finalement, des textes plutôt humoristiques, peut-être plus près de l'humour noir qu'on retrouve dans mes romans.
Ah
d'ailleurs.
Ben ça, je peux vous le garantir. Vous aussi, vous avez gagné des prix. Nicolas Briançon, vous l'avez
dit. Oui, pardon, c'est improvisé ou c'est préparé ce concours de poésie? Non, c'est préparé. C'est
non, pas... absolument, c'est préparé. D'accord, oui, c'est pas du freestyle.
On vous donne pas un thème textes. Et puis hop, allez.
Non, mais j'aime bien faire ça aussi, par contre, l'improvisation poétique. Ouais. Je le fais en spectacle souvent, oui.
Nicolas Briançon, vous aussi, vous avez eu des prix?
Ah oui. Oui, j'en ai eu, oui.
Molière, pas beaucoup, hein. Pas beaucoup? Ah ouais?
Non, pas beaucoup. Bah, j'ai eu un Molière.
Ouais. Et au conservatoire?
J'ai attendu très tardivement. Non, aucun prix à l'école, aucun prix au conservatoire, non, aucun prix. Non, un Molière, voilà, qui est très pratique, qui me sert à coller des post-it, à me rappeler de ce que j'ai à faire et aussi à être très joyeux de cette petite reconnaissance que m'a fait
la profession.
Mais quand même, la profession. En art, comme à l'épicerie, le prix reflète rarement la valeur du produit. Donc, il ne faut pas non plus s'entêter à vouloir ces prix.
Ouais, mais enfin, quand on en a, on les refuse pas non plus. François Vincentelli, vous?
Moi, j'ai aucun prix. Si, j'ai un prix de camaraderie en 82.
Ça compte pas.
Si, ça compte. Ça compte. C'est le plus beau prix. C'était tous mes camarades de classe qui me l'ont donné. Donc,
c'était
un vote. Ah, donc, j'étais le meilleur camarade. C'est quand même très bon.
Ouais.
Et moi, je me souviens de Marielle qui avait dit une chose à propos du... Comment ça s'appelle là,
la Légion d'honneur.
La Légion d'honneur, ça se demandait pas.
Non, c'est vrai.
Ça ne se refusait pas et ça ne se portait pas. Voilà, il avait dit ça.
Il avait dit d'ailleurs à propos des Molières qu'il avait eu d'ailleurs, mais oui, qu'il n'était pas venu chercher. Il avait dit : « Je ne suis pas un acteur de tombola. »
Oh. Donc du théâtre ce soir avec vous, Le Canard à l'Orange, du théâtre de 1968. L'idée c'est la vôtre, Nicolas Briançon ?
Oui, enfin, oui, c'est l'idée elle est partie en fait d'une envie de se retrouver ensemble.
Avec qui ?
Avec Anne Charrier, avec ouais. François Vincentelli, avec Élise Dufour et Sophie Arthur. D'abord avec Anne, parce qu'on a fait beaucoup de choses ensemble. On avait fait de nombreux spectacles, on a tourné une série pour Canal+, qui était Maison Close, on se connaît très bien, on avait envie de rejouer ensemble. On se revoyait pas mal avec François à ce moment-là, et en relisant vraiment par hasard Le Canard à l'Orange qui traînait dans ma petite bibliothèque, j'ai vu la distribution émerger de façon extrêmement rapide et simple. Vraiment, hein, c'était un mercredi. Le dimanche, on a fait une lecture chez moi en prenant le thé. On a tellement ri, on s'est tellement marré ensemble qu'on s'est dit on va le faire. Et puisque j'ai la chance de m'occuper encore cette année d'ailleurs d'un grand festival qui est le Festival d'Anjou, on l'a créé au Festival d'Anjou au mois de juin dernier. Et puis on l'a repris à Paris. Et je dois dire que depuis le début de cette aventure, il y a des aventures théâtrales qui sont parfois extrêmement complexes à organiser, parce que le théâtre c'est une équipe toujours. On n'est pas seul. On est ensemble. Et donc ça ajoute de la difficulté à pour arriver à faire du théâtre, il faut arriver à fédérer des forces, des envies, des désirs. Et donc c'est parfois très compliqué. Et parfois ça donne des formidables résultats. C'est parfois très compliqué. Parfois on va au bide. Et puis parfois c'est très simple et c'est un bide. Et parfois c'est très simple.
Vous avez vécu des gros bides, Nicolas?
Oui, bien sûr. Oui.
Vous pensez à quoi?
Je pense à un spectacle qu'on a adoré faire, qui s'appelait La Rivière, qui se joue à la Comédie des Champs-Élysées,
une pièce qui était formidable,
pièce de Jess Butterworth, qui est une pièce merveilleuse. C'était absolument mis en scène par Jérémy Lippmann, formidablement. C'était visuellement extraordinaire. La pièce était absolument dingue, et ils n'en ont pas voulu. Mais vraiment, ils n'en ont pas voulu. La difficulté, notre faiblesse à nous au théâtre, c'est qu'on a besoin du public.
Sans ça, c'est pas la peine.
Un auteur, pardon. Je parle sous votre surveillance, mais un auteur, un peintre, peut toujours se dire qu'il sera lu plus tard, que même s'il ne rencontre pas le public maintenant, ça viendra peut-être. Bon, nous, c'est maintenant. Si ce n'est pas maintenant, il n'y a plus théâtre. Le théâtre, c'est vraiment un art du présent.
Bon, bah là, donc, de toute façon, ça a l'air de bien marcher, c'est prévu jusqu'en juin. François Vincentelli, de votre côté, des bides, il y en a eu aussi?
Des bides, non, pas tellement, je pense. Non, mais c'est vrai. Non, mais parce que j'ai joué avec des grands acteurs à côté de moi qui faisaient qu'il y avait du monde, comme François Berléand ou Mathilde Seigner. Donc
j'ai. Ah, il y a vous aussi, donc c'est pas simplement parce que.
Bien entendu, non, mais je sais, mais sauf qu'on sait aussi qu'au théâtre, il y a des spectateurs qui viennent aussi pour des vedettes.
Exactement. Dont vous faites partie aujourd'hui, quand même.
Non, pas réellement.
Ah, bah quand même. Vous êtes très identifié. Oui, la série Hard a permis quand même de mettre un nom sur un visage. Ou le contraire.
Oui. Je suis sûr que ça aide aussi.
Êtes-vous sûr que la série a permis de mettre un nom sur le visage, sur une autre partie de l'anatomie?
Non, l'autre partie, peut-être qu'il y avait une chaussette. C'était oui, pour David Goudreau qui
ne
connaît pas.
Je devine.
C'est une comédie.
C'est une série. Hein, c'est pas du tout, ce que vous pouvez penser avec votre cerveau malade. Non, c'est juste une série.
Qui a été rachetée par HBO. Le concept a été racheté par HBO pour dire à quel point c'était une série qui était réussie pour qu'on avait fait sur Canal+. Voilà.
C'est Nicolas Briançon qui crée la.
Bien sûr. Pas du tout.
Et on l'a joué au théâtre. Après, on en a fait, ça a un tel succès. J'explique tout ça.
À notre ami québécois. D'ailleurs, la scène, vous connaissez aussi, David Goudreau, vous vous projetez sur scène régulièrement, avec un spectacle.
Oui, au bout de talent que j'ai présenté il y a quelques jours à Comédie Nation. Ça a été une super belle rencontre.
Première partie de Grand Corps Malade aussi, souvent.
Oui, régulièrement au Québec. Ouais, c'est un ami que j'apprécie beaucoup.
Donc vous mangez à tous les râteliers, en fait. La poésie, le roman, la scène, la chanson aussi.
Je ne fais pas de sculpture. Voilà, alors en fait, c'est toujours l'écriture. Je donne l'impression de faire plusieurs choses, mais c'est toujours le geste premier de l'écriture. Parfois, c'est publié, parfois c'est moi qui le dis sur scène ou d'autres qui le chantent, mais c'est vraiment l'écriture qui est le geste premier. Moi, tout mon intérêt en fait est là, et je suis convaincu qu'il y a des choses géniales dans tous les genres littéraires aussi, même en bande dessinée, en fantastique, en théâtre, qui est aussi un genre littéraire d'abord, c'est des textes écrits.
Cocteau disait que dans tout ce qui est Cocteau, qui a touché à beaucoup de genres, le cinéma, le roman, le théâtre et la poésie, disait qu'il n'avait fait qu'une chose en fait dans sa vie, c'était de la poésie. C'était la seule chose.
On vous a demandé des sons à chacun pour faire plus amplement connaissance. Nicolas Briançon, vous connaissez la chose. Une voix pour vous.
Très jeune, j'ai décidé que j'avais de la chance. J'avais un professeur qui s'appelait Popélix et qui m'avait conseillé de me présenter au conservatoire. Et il m'avait dit qu'il faudrait un miracle pour que je sois refusé. Et le miracle a eu lieu. J'ai été refusé. Alors, mes copains à qui je disais que j'avais de la chance, ils m'ont dit, mais tu nous dis que t'as de la chance et t'es refusé au conservatoire. Et moi, avec une mauvaise foi terrible, j'ai dit, mais c'est ça ma chance, parce que ça me montre que je dois aller chez un professeur anti-traditionnel et anti-conventionnel. Et c'est comme ça que je suis allé chez Charles Dullin.
Vous vouliez cette voix, celle de Jean
Marais. De Jean Marais,
à un
bien
moment
sûr.
précis d'ailleurs.
Oui, j'ai beaucoup d'émotions de l'entendre parce que Jean, il y avait cette voix. C'est à la fois une voix. Pardon, je vais choquer ses fans absolus. J'ai vraiment aimé ce. J'aime et j'ai aimé ce bonhomme de façon absolue. Mais c'est vrai que sa voix de jeune homme, elle est assez inaudible. Elle est terriblement nasale. Et il le disait lui-même d'ailleurs, ouais. qu'il détestait sa voix et qu'il s'était mis à fumer 2 paquets de cigarettes. Pour tout d'un coup essayer d'accrocher cette voix qu'il a eue en vieillissant, où il parlait comme ça, un peu bon. Mais j'ai beaucoup de tendresse à l'entendre, oui. C'était un personnage d'un autre temps, d'une générosité absolument folle, d'une
Vous l'avez
capable de
rencontré?
Faire confiance. Oui, bien sûr, j'ai été son assistant, j'ai joué pour lui. Je l'ai rencontré un peu par hasard. On m'a proposé de faire un assistanat et on m'a dit, est-ce que tu voudrais être l'assistant de Jean Marais? Il cherche un assistant. J'ai dit, ben ouais. Donc on m'a dit, il va t'appeler. Et le soir, j'avais 25 ans, j'ai un coup de téléphone, bonjour, c'est Jean Marais. C'était quand même un truc. Et puis je suis monté le voir à Montmartre le lendemain, un peu tremblant. Il habitait un appartement rue Norvin. Et puis il avait sorti ses plans, ses maquettes, parce qu'il faisait la mise en scène, les décors, les costumes.
Il était sculpteur aussi.
Et il jouait dans Bacchus, qui était une pièce de Cocteau. Et puis j'étais en fait de fait assistant. Et puis au bout de 20 minutes, il m'a dit, il me connaissait pas, hein, il m'avait jamais vu, il m'a dit, bah, est-ce que ça t'amuserait de jouer le rôle? Alors je lui ai dit, bah oui, il me dit, bah comme ça m'évite de chercher.
Pas mal.
Mais cette confiance-là, d'être capable à ce degré, parce que ça c'était, alors on parle de gens connus, mais là on parle de vraies stars.
Mais et c'était une star de l'époque. Hein,
voilà, vraiment une star. Cette capacité à tendre la main comme ça et à faire confiance. Un parfait inconnu sur simplement un truc de flair, d'envie, je trouve que c'est extraordinaire. Je trouve que ça, alors vraiment, c'est une leçon, c'est une chose dont j'essaie de me rappeler parfois quand je croise des acteurs, de me dire il faut marcher à l'instinct, il faut foncer, il faut l'audition c'est très bien, mais ça place tout d'un coup l'acteur dans une situation de stress, de machin, on le voit pas toujours. Il faut faire confiance. Cette capacité à faire confiance, à tendre la main, à dire ben vas-y, fais-le. Je trouve que c'est extraordinaire, voilà. C'est une chose dont il faut se rappeler tout le temps.
Alors, la voix de Jean Marais, une autre voix pour vous aussi, François Vincentelli.
Fernand! Fernand! Tu me dis vous et moi je te tutoie. C'était normal jusqu'à présent, mais aujourd'hui tu es un homme. Et ça n'a plus sa raison d'être, alors désormais, je te dirai vous. Allons dîner!
Allons dîner!
Quelle merveille.
François Vincent.
J'ai entendu ça depuis, oui, parce que c'était dans le Nouveau Testament de Sacha Guitry. Je jouais avec Jean-Pierre Mariel. Dans le théâtre de Belmondo à l'époque. Enfin, moi, j'ai vécu un truc dingue. C'est-à-dire que je suis arrivé dans ce théâtre. D'abord, j'ai passé une audition, mais j'étais pas au courant. Je croyais que je rencontrais Bernard Murat, qui était le metteur en scène. Et j'ai ouvert une porte, je suis arrivé sur une scène. Et on m'a tendu un texte. Moi, je lis très mal. Je bégaye, j'ai très vite le trac. Et en face de moi, il y avait Agathe Natanson. Comédienne qui me donne le texte, et donc je lis le texte et je vois à ce moment-là dans la salle Jean-Pierre Marielle, c'était énorme, et je disais je reprenais, ça c'était un cauchemar. Il me fait tout de suite merci. Je suis rentré chez moi, je me dis, mais quelle horreur. Ils m'ont rappelé en me disant, on aimerait bien vous revoir, mais on aimerait que vous prépariez le texte. Donc là j'ai préparé le texte, j'ai repassé l'audition, et là il s'est levé au bout de 3 phrases et il a fait, oh c'est lui. Ah, il est bien, il est grand. Il s'appelle François comme mon fils. Voilà les critères qui ont fait que j'ai fait ce
comme
rôle.
Comme quoi, c'est vraiment pas la peine de passer les auditions.
Non, mais voilà,
de travailler les auditions, c'est super.
C'était une rencontre incroyable. Et puis après, j'ai rencontré Belmondo, Noiret, Rochefort.
Toute l'équipe, ouais.
Mais c'est parce que c'était des potes. Ils se retrouvaient dans la loge de Marielle. Et puis moi, j'étais là. J'écoutais des.
Vous aviez quel âge à cette époque?
J'avais 25 ans.
Ah ouais, donc la même période. Ouais, voilà, enfin,
pas. Et la même rencontre. Commun, mais c'est vrai qu'on est d'une génération. Je suis plus âgé que François, mais on est d'une génération. On a quand même connu une certaine race d'acteurs qui a disparu. Après, il y en a d'autres aujourd'hui qui ont d'autres, évidemment, d'autres qualités. Mais on était encore avec des mythes. Il n'y a plus de mythes aujourd'hui au cinéma. Il y a de très bons acteurs, il y a des formidables comédiens, il y a plein de choses. Mais cette dimension un peu mythique qu'avait la bande, Belmondo, Noiret, Marielle, Rochefort, Jean Marais, Edwige Feuillère.
Le Conservatoire 52, quoi. Ouais. Et en plus, il y avait Françoise Fabian qui était dans la pièce, toutes ces personnes qui étaient la meilleure amie de Ventura, quand même, Fabian. Donc, enfin, tout ça faisait que moi, j'étais baigné dans ce que je trouvais. Et en plus de ça, ces gens que je déifiais m'ont pas déçu. C'était vraiment des dieux, quoi. C'était des gens incroyablement généreux, gentils et qui m'ont apporté beaucoup. Et j'oublie pas parce que j'aimerais être comme eux.
Un autre son, beaucoup plus personnel. Comme c'est mignon pour vous, David Goudreau.
Je t'aime. Je t'aime.
C'est un son que vous nous avez apporté.
Oui, qui est très dur pour mon cœur de père éloigné de ses enfants. En fait, c'est le rire de mon fils. Voilà, on demandait un son significatif, puis j'ai pensé à plein de choses, en musique, en poésie et tout. Et finalement, je me suis dit non, ce qui est encore le plus important pour moi, ce qui me fait vibrer, ce qui me ramène chez moi à tous les soirs quand je le peux, c'est encore le rire de mes enfants. Et comme j'ai écrit tout un recueil de poésie intitulé « Testament de naissance pour ma fille », je me suis dit, bon, ben, je vais mettre le rire de mon fils et ce sera réglé. Ils seront quittes. Voilà.
C'est parfait. On va vous retrouver tous les trois dans quelques instants. Tout de suite, on salue le retour, toute guitare dehors, du duo emblématique du rock américain The Black Keys sur France Inter.
Lo-Hi, le nouveau Black Keys pour patienter jusqu'au prochain album.
Rendez-vous. Dis-moi, quand tu commençais à avoir des doutes à mon sujet ?
La première fois que je t'ai vue, chérie. Je me suis dit que tu étais trop belle pour moi, mais je me suis dit que ça valait quand même le coup d'essayer. Jusqu'à la semaine dernière, où Mademoiselle Forsythe, ma secrétaire, m'a avoué qu'elle t'avait aperçue la veille dans une agence de voyage. Avec, alors attends, je me rappelle les termes exacts. Une espèce d'Apollon aux yeux de braise.
Laurent Goumard, le nouveau rendez-vous. Sur France Inter.
Alors, le mari, c'est vous, Nicolas Briançon, l'Apollon aux yeux de baise. L'Apollon aux yeux de braise.
Oh, le lapsus
complètement révélateur.
Soyez gentil de ne pas couper ce moment et diffusez-le dans son intégralité.
Il n'y a aucun problème. L'Apollon aux yeux de braise, c'est vous, François Vincentelli, dans ce classique du boulevard. Le Canard à l'Orange, c'est au théâtre de la Michaudière actuellement à Paris. Une pièce de 68, joyeusement misogyne, bourrée de jeux de mots. Elle est signée William Douglas Home, un sacré personnage lui aussi.
Ah oui, un type formidable, un type qui a refusé de bombarder le Havre.
En 44,
ouais. À qui ça a causé quelques ennuis.
Ah ben, il a été emprisonné.
Voilà, et puis qui a après décidé de défendre l'idée d'un théâtre léger, de divertissement, mais avec beaucoup d'esprit, d'intelligence. Oui, vous l'avez dit, de la misogynie, même parce qu'on est dans
une époque, on
est à un moment donné, évidemment, aujourd'hui, ça serait
Compliqué d'écrire. Vous auriez mis tout sur le dos.
D'écrire ce qu'il y a d'écrit dans la pièce, mais encore que finalement, à l'arrivée, on peut pas dire que les hommes s'en tirent avec une image absolument reluisante non plus. Hein,
Non, mais ils sont pas victimes des, mais ils sont pas victimes des jeux de mots. Quoique si, d'ailleurs, la femme, elle en balance aussi.
Mais comme il y en a dans
Il y a des codes misogynes de cette époque-là, il n'y a pas de problème avec ça. Vous aviez déjà vu la pièce avec Jean Poiret?
Non. Moi, j'ai vu des extraits avec Poiret, j'avais vu des extraits avec Michel Roux aussi.
Voilà. Ça, Michel Roux, je l'avais vu à la télévision à l'époque, ça ne nous rajeunit pas.
Qu'il avait repris. Mais Poiret, je l'ai vu par bribes. D'abord, il est par bribes seulement sur Internet, on le trouve par bribes. Donc, j'avais vu des petites bribes. Et puis, quand on a commencé à travailler, j'ai laissé tomber. J'ai regardé un peu récemment, comme ça, pour voir
un petit peu si le phrasé, tout ça.
Mais en fait, on est dans l'esprit, en tout cas.
Vous avez regardé, vous aussi, François?
Non, pas du tout.
Vous ne voulez pas savoir ce qui a été fait avant?
Non, je voulais pas.
Par exemple, dans le cas du personnage de François, c'est très...
L'amant, c'est qui jouait l'amant?
C'est très différent, c'était Alain Lionel. Mais c'est surtout le personnage original, c'est une espèce de lord anglais, balayé dans le cul.
J'ai eu un lapsus, vous pouvez bien avoir un gros mot.
Et puis François, un jour en répétition, m'a dit, est-ce que je peux l'essayer avec l'accent belge? Et j'ai dit, vas-y, essaye. Et on a gardé cette idée.
Eh bien, extrait.
Il se comporte vraiment bizarrement.
Tu as remarqué aussi?
Ça c'est remarquable. Ce matin, quand je suis arrivé à la partie de tennis, il m'a fait la bise, dit. Puis cette façon qu'il a de lorgner tout le temps sa secrétaire, là, comme si elle se promenait toute nue, ça c'est vraiment déraisonnable. Hein. Compréhensible, certes, mais déraisonnable. Hein.
Ça vous est venu comment d'adapter ce personnage de Lord Anglais avec un balai dans le cul en belge?
Mais un soir, en relisant le texte, on était au tout début des répétitions, on était dans les lectures, et je me suis dit, mais il m'a fait penser à quelqu'un que je connaissais en Belgique, je connaissais il y a longtemps, qui était une sorte de parvenu richissime, sans foi ni loi, et qui parlait comme ça. Et je me suis dit, je l'ai lu comme ça, et je me suis dit, mais en fait, ça lui irait bien à ce...
Et ça fonctionne complètement. Vous avez plusieurs accents comme ça à votre...
Celui-là, je le connais bien parce que je suis né en Belgique.
Je sais, c'est pour ça.
Disque dur. Après, je peux faire des accents, mais ça sera jamais... Je pense qu'on ne peut pas faire un accent si on n'est pas natif de...
Vous pouvez faire l'accent québécois.
Ça marche, par exemple, j'aurais pas gardé l'idée si ça avait été un Français qui avait fait l'accent belge, on sait comment les Français font l'accent belge, mal.
Ou comme un Français fait l'accent québécois, ce qui m'a assez parlé avec l'accent québécois, ça fait rire tout le monde, puisque c'est pas du tout ça.
David Goudreau, vous pensez que c'est ça ou pas?
C'est déjà pas si mal.
C'est un acteur.
Oui, mais
c'est pas un imitateur, c'est pour ça qu'il est bon.
Ça ne peut marcher que si c'est, ça ne pouvait marcher que si c'était vraiment, que si c'était vrai, voilà. Et il le possède tellement.
Ça
fait partie de lui aussi. Et c'était très joyeux. Donc on est parti très vite sur...
Ça et les costumes qu'il a. Alors l'histoire se passe à Londres, beau quartier, un seul décor, l'appartement de Hugh Preston. C'est un animateur vedette de la télévision qui a passé sa vie à tromper sa femme, Liz, jusqu'au jour où il apprend qu'elle a un amant avec lequel elle compte bien partir. Beau joueur, il lui propose de se faire prendre en flagrant délit avec sa propre secrétaire, une bombe, et il l'invite, l'amant, pour un week-end à la maison. Alors bien sûr, c'est une stratégie. Hugh Preston n'est pas le perdreau de l'année, même s'il a mis un canard à l'orange au menu. Une pièce de 68, ça suppose quoi quand on l'adapte aujourd'hui?
J'ai pas mal coupé dans la pièce, j'ai enlevé 40 minutes. C'est-à-dire
c'est énorme.
Oui, c'est une époque où le théâtre est très 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 bavard, il explique parfois beaucoup, il réexplique même parfois deux ou trois fois les situations au cas où on ne les a pas comprises. Et puis ça s'adresse surtout à un public qui à l'époque, ça on peut le regretter aussi aujourd'hui, mais a le temps. C'est-à-dire que les soirées théâtrales sont beaucoup plus longues. Les gens, aujourd'hui, on sent que au-delà de deux heures, l'attention du public est plus là. Il y a une contamination du zapping. Il y a quand même une difficulté réelle. Et donc, maintenant, je pense qu'il faut resserrer. Et puis les gens ont appris. Je pense que le public a évolué.
Les codes, l'ellipse.
Et par exemple, au début du troisième acte, il y a un mime, enfin une sorte de jeux qu'ils organisent où deux des personnages mimes, dans la pièce originale, tous les personnages mimes. Hugh Preston fait de même deux mimes, trois mimes. J'ai pensé qu'on pouvait avancer dans l'histoire et qu'on pouvait dégraisser un peu. Du coup, j'ai enlevé aussi des petites choses d'époque, une opératrice au téléphone qui me paraît plus nécessaire aujourd'hui. Voilà, j'ai pas l'impression qu'à l'arrivée il manque quelque chose dans le l'histoire.
Non, j'avais même pas que c'était adapté à ce point-là. Enfin,
oui,
vous voyez bien qu'il y avait une sorte de rapidité d'action.
On a bien nettoyé. Mais... Ah, voilà.
Du nettoyage.
Voilà, on a dégraissé. Voilà.
Quel est le plaisir à jouer un texte pareil, qui est une sorte de mécanique, François Vincent Chelli?
Déjà, le texte, il est assez extraordinaire parce que c'est vraiment, même les soirs où on est moins en forme, on peut vraiment s'appuyer sur le texte qui est très jouissif à dire. Que ce soit Preston c'est vraiment.
Preston, c'est son show.
C'est son show.
Le mari alcoolique qui traverse toute la pièce comme ça et qui manipule tout le monde. Oui, c'est le show de Nicolas Briançon.
Et puis justement, jouer face à justement ce personnage qui a une faconde et une vitesse et une rapidité intellectuelle que l'autre n'a pas, c'est très agréable de jouer l'Auguste.
D'être
toujours en retard d'une guerre sur les vannes. Donc il se fait mettre en boîte. C'est un peu un dîner de cons à l'anglaise dans un cottage. Donc il y a un truc où il est toujours en retard d'une guerre, il comprend la après coup, et c'est très agréable à jouer les candides, les
non mais moi, il faut dire aussi, vraiment, je le dis, ça fait tellement langue de bois ce que je vais vous dire,
pourtant c'est
tellement, mais c'est tellement réel, si ce spectacle a l'heure de plaire aux gens et au public, je pense qu'il le doit à sa distribution et au fait que justement, je crois qu'on n'est pas tombé dans l'écueil qui a pu exister avec ce type de théâtre-là, ou qui peut exister avec ce type de théâtre-là certaines fois, c'est-à-dire un acteur qui fait le show et puis autour des faire-valoir.
Là, on a
cinq acteurs qui défendent leur bout de grammé avec une force, une intensité. Je peux vous dire, quand vous êtes face à Vincentelli sur le plateau, il ne vous en laisse pas. Il ne faut pas laisser traîner des miettes.
Il a eu l'esprit, il a eu le prix du bon camarade.
Mais il est super, mais c'est le meilleur camarade du monde. Mais on pourrait décerner ce prix, franchement, à la distrib.
Mais c'est pareil avec
Anne, c'est pareil avec Sophie, c'est pareil avec Alice qui est pourtant plus novice, et je peux vous dire que Alice, si vous sortez du rayon 4 secondes, elle va vous saigner dans la seconde. Mais c'est ce qui est tellement jouissif quand on joue, c'est qu'on joue ensemble, on joue comme au tennis, l'un contre l'autre et l'un avec l'autre.
Une vraie équipe, c'est-à-dire que les passes décisives sont aussi importantes que celui qui va marquer le but. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va construire quelque chose qui va faire qu'on va taper sur la cymbale au bon moment, et ça va faire mouche, et le public va nous le rendre.
On s'est rendu compte parfois que des effets, des effets comiques, entre guillemets, que fait mon personnage, que fait Preston, si 4 répliques avant, François n'a pas envoyé correctement la balle, ça tombe à plat.
Ou le contraire.
Ça se construit ensemble.
Vraiment. Voilà.
David Goudreau, vous êtes toujours seul en scène ? Vous avez déjà été à plusieurs dans des pièces de théâtre, puisque vous faites sauf la sculpture.
Moi je n'ai jamais joué. J'ai écrit une pièce à quatre mains avec une troupe de Sherbrooke. C'était un huis clos carcéral avec deux acteurs, d'ailleurs, qui peut faire un écho à mon roman La Bête et sa cage. Deux univers complètement différents. Mais non, moi je ne joue pas. Donc quand je suis sur scène, je déclame des poèmes, pas seulement les miens, mais je ne suis pas dans le jeu. Par contre, j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui le font et beaucoup de plaisir à les voir jouer. Donc moi, je me permets de jouer seulement avec mes enfants, cité plus tôt, mais je n'ai pas ce courage-là. Dans mon cas, j'ai l'impression que ce serait téméraire.
Ouais. Jouer, c'est jouer au tennis, jouer, c'est jouer au cowboy aux Indiens, en sophistiquant un peu le...
Justement, vous deux, comment vous êtes venus au théâtre et au jeu, François Vincentelli, de votre côté?
Oui, on me l'a posé souvent cette question, mais je ne me souviens pas avoir voulu faire autre chose, et j'ai toujours joué, effectivement. Je pense qu'il y a un truc d'immaturité chez moi qui fait que je suis resté une sorte de grand enfant.
Mais c'est pour parce ça que vous aviez vu des acteurs, parce que vous aviez vu, c'était des mises en scène.
Oui, alors après, je sais que j'ai une émotion terrible devant L'Animal avec mon père. On a regardé ça, on est au cinéma, L'Animal avec Belmondo.
Avec Belmondo, ouais.
Et je sais qu'à un moment donné, il souffle sur un gros gâteau avec du sucre glace et que le mec en face reçoit le sucre glace, la figure, un classique. Et c'est mon premier fou rire au cinéma. Je pleurais de rire. Et je sais que depuis ce jour-là, je suis tombé amoureux de Belmondo, évidemment, comme beaucoup de monde. Et puis j'ai voulu faire ce métier parce que je trouvais ça incroyable de pouvoir rire, jouer et s'amuser et de pouvoir en vivre. Bon,
Vous, Nicolas Briançon,
c'est très précis. J'ai 14 ans, je suis jamais allé au théâtre de ma vie pratiquement, parce qu'on n'y va pas franchement dans ma famille, ni au concert, ni à quoi que ce soit. Je m'ennuie un peu. Mon père, qui est pourtant pas très présent dans ma vie, me prend par la main, m'emmène au cinéma voir La Flûte Enchantée, l'opéra de Mozart que Bergman avait fait pour le cinéma. Et il y a avant-après. C'est-à-dire que je sors de cette projection et je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc il y a un monde qui n'est pas le monde et qui est tellement plus passionnant, plus intéressant, plus extraordinaire. Et donc, je suis allé voir. Et on habitait Bordeaux à l'époque. J'ai été gratté à l'Opéra de Bordeaux où on pouvait louer des disques. Et donc, j'écoutais à 14 ans des disques d'opéra, ce qui sidérait un peu ma famille et ma mère qui me dit, rentrait dans ma chambre en disant, mais qu'est-ce qu'il a gueulé celui-là? Et puis, on m'a engagé pour faire la figuration à l'Opéra de Bordeaux. Et là, j'ai découvert le théâtre, l'endroit, les danseuses.
Et c'était parti.
Et je me suis dit, c'est là que je veux vivre. Voilà. Je ne savais pas pourquoi faire. Je ne savais pas si c'était pour être acteur. J'aurais pu m'imaginer accessoiriste, machinot, régisseur. Je voulais vivre dans cet endroit qui était le théâtre. Et ça sauvait en plus pour moi quelque chose de très important qui était les dimanches, parce qu'il y avait des matinées ou des répétitions. Et le dimanche qui était pour moi la journée de l'ennui, du gigot d'agneau, du millefeuille, de la promenade en forêt, de l'ennui suintant.
Moi je crois que c'est la promenade en forêt
et du travail
le
à
reste,
faire.
Ça va.
Et du travail à faire pour le, et du travail à faire pour le lundi matin. Tout d'un coup, ben là, je fonçais au théâtre et dans cet endroit fermé, il y avait des filles un peu plus âgées que moi qui étaient merveilleuses de grâce et d'élégance. L'extraordinaire excitation du théâtre, le rideau rouge, etc. Et je trouvais que c'était tellement bien de vivre là, quoi.
Eh bien, vous y vivez toujours. Ouais. C'est au théâtre de la Michaudière à Paris jusqu'en juin. Le Canard à l'Orange, vous restez avec nous. On va partir en prison avec David Goudreau. David Goudreau, vous l'avez reconnu, j'imagine.
Mais bien sûr, Mélissa Lavo, de chez moi.
Mais oui, de chez vous.
Voilà.
Québécoise, Totalito, c'était la voix de la Canadienne Mélissa Lavo. Elle sera en concert au festival Mythos à Rennes le 3 avril, au Nude Fourvière à Lyon le 3 juillet, au Trianon à Paris le 11 octobre.
France Inter, le nouveau rendez-vous.
Ma mère se suicidait souvent. Les chiens de la DPJ m'ont arraché à elle, mais je vais la retrouver de gré ou de force. J'avoue, j'ai un peu tué quelqu'un en cours de route, mais ce sont des choses qui arrivent.
Laurent Goumard.
À la fin de ce récit, je vais me tuer et puis mourir. C'est ainsi. Toute bonne chose a une fin, mais moi aussi. Avant de crever, je vais retrouver ma mère et assassiner quelques personnages secondaires. C'est documenté.
quelques personnages secondaires. Vous êtes flippant, David Goudreau.
Voilà, oui, mais faut dire que c'est beaucoup plus drôle que ça en a l'air dans cet extrait. C'est de l'humour noir, mais oui, c'est quand même violent, faut le dire, c'est un peu trash.
C'est le teaser du premier roman qui s'appelait La bête à sa mère.
Oui, voilà, en fait, c'était, je crois, une espèce de teaser pour la série complète, mais avec des extraits de la bête à sa mère au début. Et cette idée, donc, d'un univers trashy-comique, finalement. C'est trash, c'est tragique, en même temps, c'est drôle. Donc, c'est un univers très particulier, je dirais.
Alors, donc, ce personnage de la bête à sa mère, on le retrouve dans la deuxième partie d'une trilogie annoncée. Enfin, elle est déjà publiée au Québec. On attend le troisième tome ici. Ça s'appelle La bête et sa cage aux éditions Philippe Rey. Il est dédié, le livre, à perpétuité. Ça, j'ai adoré. Ça commence très fort. Dédié à perpétuité. Parfait. On décline l'identité de la bête, son nom.
Il n'en a pas dans ce tome.
Il n'en a pas, bravo.
Mais il en a un dans le troisième tome.
Ah, voilà, alors il faut ça fait comment? Bah, tiens, allez, un scoop.
Non, on va pas vendre la mèche. Sachez seulement que peut-être vous le trouverez quelque part dans le troisième tome.
Son âge?
L'histoire commence, il est très jeune. Je pense qu'il a 4 ans quand il retrouve sa mère. L'insipide du premier roman, c'est « Ma mère se suicidait souvent ». Donc, on a cette idée d'une mère absolument inadéquate et de l'enfant qui retrouve sa mère.
Une sorte de pendant à Camus, hein, si tout le monde a bien compris.
Ouais, oui, clair, effectivement. Donc, lors de ses tentatives de suicide et qui, finalement, donc on le suit de 4 à 24 ou 25 ans, donc dans la fin du troisième tome. Mais c'est vraiment la construction d'un monstre. C'est vraiment comment est-ce que de mauvais choix en mauvais choix, de mauvais services sociaux en répression criminelle inefficace, on arrive à construire cette espèce de tueur, pas vraiment un tueur en série.
Un petit tueur en série, il en a deux quand voilà, il commence là, voilà. Quand on commence le deuxième tome.
C'est une petite série.
Signe particulier, il en a plusieurs.
Des signes particuliers, ben en fait, il a tous les tatouages absolument ridicules que l'on retrouve chez une certaine catégorie de criminels minables. Donc le signe chinois dans le cou, les tatouages.
La tortue maori.
il pourrait éventuellement voir la tortue maori. En fait, voilà, c'est quelqu'un qui porte ses cicatrices et ses tatouages
pas
avec
ça.
Une fierté
il est roux
certaine.
Aussi, mais il le cache.
Oui, c'est ça. Il est.
C'est
il
au
est
détour
roux.
D'une phrase que j'ai vu ça, ouais.
Il est roux, presque brun. Donc il assume mal sa rousseur, mais voilà, un grand efflanqué.
Et puis autre chose aussi, son élocution.
Oui, dans le deuxième tome, faut dire qu'il s'est fait défoncer la gueule, donc en début de roman, par un co-détenu du nom de Papillon qui lui a enlevé une dent. Donc, tout le long du roman, il parle comme ça.
Et c'est, voilà. Il se veut un caïd. Et il est un caïd d'une certaine façon.
Dans sa tête, oui, il est un caïd.
Situation familiale?
Complètement largué, donc il est à la dérive et le vit très mal, d'ailleurs, car son moteur est noble. Finalement, lui, il veut retrouver l'amour, l'estime, il veut retrouver sa mère physiquement, ouais. Et retrouver l'estime d'un père à travers les figures paternelles des vrais caïds.
Conviction politique?
Je dirais extrêmement de droite et de centre-gauche. voilà, exactement. Donc, c'est quelqu'un
nationaliste,
qui est un peu partout.
Raciste. Il n'est pas antisémite, mais il hait les juifs.
Oui,
c'est ce qu'il raconte. Hein.
Mais en fait, il est raciste. Je lui ai donné tous les défauts du monde. Donc, il est raciste, misogyne, homophobe et fédéraliste. Voilà, il n'est pas nationaliste, il n'est pas pour la souveraineté du Québec.
Non,
donc,
quand on dit nationaliste, c'est pas du tout la même chose, justement,
voilà,
ici même.
Même.
Donc, c'est donc en prison que va se passer tout le roman avec ce type violent qui subit lui-même des violences de la part de son protecteur en prison. Papillon, je lis, ça commence comme ça. Question sodomie, je suis un homme passif. J'attends que ça passe. Dès mon atterrissage en prison, j'ai conclu que c'était la meilleure attitude à adopter, me débattre, exciter mon agresseur, déjà que je n'éprouvais aucun plaisir, je n'allais pas attiser le sien. Comme ça, au moins, le personnage est planté, on le sait. Donc, on suit ce type qui partage sa cellule avec un tatoueur. Et oui, il y a, en fait, des trafics de tatouages dans les prisons, ce que j'ignorais quand même, parce qu'il faut avoir un matériel.
Avec Philippe le Philippin, qui lui fait ses tatouages. Mais en fait, en prison, il y a plein de trafics. C'est absolument fascinant.
La drogue, ça, je savais. Les téléphones portables, je savais aussi.
Évidemment, mais
l'alcool aussi. Il y a un mec qui fait de l'alcool.
Ben oui, ce qu'on appelle nous de la boboche, donc produire l'alcool. Et en fait, tout est bon pour le trafic en prison. Ils peuvent même trafiquer des romans. Et moi, j'ai vécu quelque chose d'absolument fabuleux dernièrement. Je donne beaucoup d'ateliers de création dans les prisons, les centres de détention. Et dernièrement, je suis allé dans un centre de détention où ils ont fait lire le premier tome, La bête à sa mère. Et ils m'ont appris que les détenus ont beaucoup aimé. Ils voulaient absolument lire la suite. La direction a accepté d'acheter le troisième tome, mais ils ont refusé La bête et sa cage, car ils disaient que c'était trop réaliste. Mais pour un auteur, c'est génial de se savoir censuré en prison. Je suis mis à l'index en prison car mon roman sur la prison est trop réaliste. Pour
donc,
moi, c'est
on
un
trouve
grand
pas.
Moment. Là.
Donc, voilà, en prison, on ne trouve pas ni le Kama Sutra.
Ni la bête et sa cage.
Ni la bête et sa cage. Parce que le Kama Sutra, ça n'y est pas.
Mais peut-être que ça se trafique sous le manteau, justement. Tous les trafics, ils sont populaires, je dirais.
Donc l'histoire, ça va être, bien sûr, la vie à l'intérieur de cette prison. Comment pouvoir résister à son protecteur. Et puis, il y a tout un jeu de pouvoir autour d'un personnage principal. Pas d'un personnage principal, mais celui qui dirige la prison à l'intérieur. Mm-hmm. Son nom, c'est
Bizoun.
Ça veut dire quoi?
Voilà. Au Québec, c'est un espèce de nom qui peut référer aux organes génitaux ou au verbe, donc, d'essayer quelque chose, donc de bizouner. Donc, l'idée, c'est que c'est un espèce de chef de gang, mais faut savoir qu'on est dans l'aile psychiatrique. Donc, c'est un chef de gang qui a les limites de sa condition mentale et qui, finalement, ce sont des gens qui sont tous en marge, même à l'intérieur de la marge. Donc, ils sont dans la marge de la marge, dans une prison où ils sont ostracisés dans l'aile des coucous, donc les malades mentaux, qui, entre eux, finalement, se réorganisent une hiérarchie qu'on retrouve dans toutes les prisons, finalement, à toutes les échelles. Mais là, ça devient très drôle parce qu'il y a du trafic de médicaments psychiatriques, il y a des gens qui sont en psychose, il y a des personnages voilà qui feignent aussi la folie, et dont la bête, entre autres, qui, lui, ne se considère pas du tout comme un coucou et qui ne comprend pas ce qu'il fait là, malgré les actions qu'il peut poser.
Oui, qu'il peut poser, voilà. En effet. Donc, il y a aussi les luttes raciales, le rapport au maton, tout y est. Vous, quel rapport vous avez à la prison? C'est documenté, comme peut le dire votre personnage, qui ponctue chaque fois qu'il énonce un théorème ou un concept, notamment sur les luttes raciales, il dit toujours, c'est documenté.
Voilà, c'est sa façon de se dédouaner de toute responsabilité. Voilà. Moi, j'ai documenté la recherche. J'ai vraiment, pour ce roman-là, j'ai rencontré des agents correctionnels, des détenus, des agents de probation, pour que l'univers soit le plus réel possible. Et d'ailleurs, il y a un maton justement qui m'a dit qu'il a beaucoup aimé le roman et qui m'a dit « Tout ce qu'il y a dans ton roman, je l'ai vécu sur 20 ans de travail. Toi, ça se passe dans un seul été, mais le réalisme est là, malgré un ton très romanesque, malgré tout l'humour et l'humour noir que j'y mets, ça relève quand même d'une certaine réalité. » Et moi, c'était le défi d'écriture, d'avoir quelque chose qui est vraiment enraciné dans un univers fidèle à la réalité, mais partir dans des délires les plus poussés possibles, même au niveau du langage, voir jusqu'où je peux aller et forcer le lecteur à prendre position, à refuser le jugement du personnage principal, car on est toujours dans la tête, finalement, de la bête.
Oui, il est antisémite, il est misogyne, homophobe, on peut décliner toutes les personnalités de ce type. Vous-même, vous avez joué en prison, Nicolas Briançon?
Ouais. Oui, j'ai joué une fois, je crois, dans une centrale, à Villeneuve-sur-Lot, qui est la centrale d'Ace, qui est un endroit assez particulier. Et je dois dire que être rentré une fois dans une prison, plus jamais après vous dites « Ah oui, le gars, il a pris que 2 ans de prison ». Parce que quand vous entendez pour la première fois la première porte se fermer derrière vous, avant qu'on ouvre la seconde, il y a quelque chose qui se passe et vous sentez à quel point vous êtes tout d'un coup là, dans un endroit où le temps... c'est plus un an ou 2 ans, c'est une éternité de secondes, en fait.
Et ça s'était bien passé pour vous ?
Oui, ça s'était bien passé, ça avait pas mal réagi, c'est des publics très, très...
Vous jouiez quoi ?
Oh là là, une poule, c'est très vieux, je jouais une pièce de Roger Louré qui s'appelait... qui s'appelait Les vacances brouillées ou à pisser contre le vent, on mouille sa chemise. Et donc, un chef-d'œuvre. Et donc, mais qui était pas mal, qui était une pièce assez marrante. Et c'était très participatif, on va dire, comme public.
Voilà. Ça, je peux imaginer.
Mais très, très, très prenant aussi, avec un débat à la fin, avec des questions bouleversantes. Enfin, c'est un mélange de choses, de violence, de réaction. À un moment, il y avait un mec qui rentrait avec un fusil dans la pièce, dans le spectacle.
Ah, dans le spectacle, oui, d'accord.
Et là, tout d'un coup, on entendait « Tue-le !» voilà, etc. Et puis, donc, on est quand vous êtes à côté, c'est quand même un truc, quoi. Et puis, à côté de ça, des questions d'enfants aussi, à la fin du spectacle. Enfin, c'est un endroit assez particulier. Moi, je suis fils de procureur, donc
les deux côtés.
J'ai l'autre côté de la clôture.
Ouais.
Et vous, François?
Non, jamais. Je suis jamais rentré dans une prison. Je n'y tiens pas. Et ça me fait.
L'important, c'est d'en ressortir.
Oui, c'est une chose.
Et vous avez joué en prison parce qu'en fait, il y a aussi l'idée, l'histoire à un moment donné d'un conteur. pas un conteur de premier plan, c'est-à-dire pas Fred Pellerin d'ailleurs que vous citez, ouais, mais un autre, un type un peu minable qui se fait complètement chahuter, qui va être obligé d'être évacué.
Voilà, moi j'ai eu la chance de ne jamais être chahuté, mais j'y vais assez régulièrement.
Pour jouer?
Pour donner des ateliers de création, ah ouais, pour faire écrire les détenus. Il faut savoir, moi je suis travailleur social aussi de formation, donc parfois ça me donne accès à des clientèles peut-être plus particulières, dont des sécurités maximum et tout, donc j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs types de détenus, et j'adore ça, autant chez les hommes que chez les femmes. C'est des gens qui ont du vécu, qui en ont plein les tripes, qui ont des choses à dire. Et quand tu leur donnes seulement un petit cadre, quelques figures de style, que tu leur expliques qu'on va t'écouter pour vrai, pour toutes les minutes que tu auras après, les gens écrivent des textes absolument bouleversants. Dans mon spectacle, d'ailleurs, j'en récite certains des textes des détenus. Il y a des poètes incroyables qui sont en train de purger de lourdes peines, et j'espère qu'ils vont conserver l'écriture et peut-être même publier en sortant, parce que presque chaque fois, il se passe quelque chose de magique en détention.
Alors, juste une question par rapport à ce personnage, il se rêve en rappeur, même s'il n'est pas black, comme il le dit, mais il se rêve en rappeur, et pour autant, il écoute des chansons, par exemple, il écoute Le cœur est un oiseau, il dit que c'est de Richard Seguin. C'est ouais, faux, c'est de Richard Desjardins. Et plus tard, il écoute Les portes du pénitencier, il dit que c'est de Jack Brel, mais pas du tout, ce n'est pas du tout de Jack Brel. C'est quoi ces fausses informations? Ça veut dire quoi du personnage, en fait?
En fait, c'est pour montrer à quel point il est toujours dans les distorsions cognitives. Il se trompe surtout, mais avec une assurance incroyable.
Parce que donc, c'est documenté.
Voilà, c'est documenté. Et en fait, c'est aussi un jeu pour moi, parce que dans chaque roman, il n'y a que de fausses attributions, sauf une par roman qui est très significative, dont dans le premier, une citation de Romain Gary. Quand j'aime trop Romain Gary, je me suis dit, il peut balancer n'importe quoi sur tous les auteurs, sauf Romain Gary, qui a vraiment dit « On ne jouit bien qu'en se retenant ». Et moi, je trouve ça magnifique. Donc, le personnage, il le dit aussi. Il y a aussi du Casanova et tout. Donc, pour moi, c'est aussi une espèce d'équilibre. Pour moi, la littérature, c'est très mathématique aussi. Et puis d'ailleurs, en poésie, c'est vraiment une musicalité. C'est un jeu sur les temps, sur le rythme, sur la musique. Et je crois que dans le roman aussi, il peut avoir un certain rythme. Et ces espèces de jeux-là autour du langage me permettent de ne pas m'ennuyer, finalement, quand je passe 300 heures devant un texte.
David Goudreau, le roi des fake news. Donc, dans La Bête et sa cage, en édition.
Je suis pas sûr que je vais garder le titre.
Je suis toujours en train de réfléchir à cette phrase de Romain Gary, j'essaye de l'analyser.
Mais moi, je vais la mettre en pratique.
Je dirais que ça dépend à quel âge.
Peut-être.
À quel moment du roman il dit ça, alors? Avec son souteneur?
Non, c'est au moment, c'est vers la fin, quand il doit effectivement se rendre jusqu'au bout de l'aventure et qu'il y mettra tous les efforts nécessaires.
Eh bien, vous restez avec nous. On se retient encore quelques minutes avant la fin du NRV.
S'il vous plaît.
Tout de suite. Oui, avec plaisir. Vraiment. Avec une certaine même jouissance. Je dois vous le dire, Nicolas Briançon. On retrouve Soro Solo.
Vous pourriez mettre un disque?
Oui.
Rendez-vous?
Qu'est-ce que vous voulez?
Je vais m'en dire des nouvelles de celui-là.
Et oui, c'est l'heure de l'Afrique en solo, la chronique avec vous, Soro Solo. Cette fois-ci, alors chaque fois on part un peu partout, cette fois-ci c'est direction le Mali avec Bassetou Kouyaté. Oui. Signe particulier?
Signe particulier, Bassetou Kouyaté est l'un des joueurs de Ngoni des plus reconnus au Mali. Et le Ngoni, c'est un luth à trois cordes, il y en a aussi à une corde, voire même à sept cordes. Et Bassetou a monté une formation musicale qui est unique au Mali, entièrement composée de l'instrument Ngoni. Et après son album Bar Power, l'album qui était complètement électrique, avec des distorsions, et il a branché une pédale wah-wah sur son Ngoni. Après donc cet album électrique, il arrive aujourd'hui avec Miri, qui revient vraiment aux fondamentaux de la musique Ngoni, donc des djeli de la région de Ségou. Et c'est sa musique raconte non seulement les histoires de société, mais parle aussi d'amour, d'amitié, mais surtout les maux qui secouent le Mali en ce moment. On se rappelle, il y a la guerre au nord, et il y a aussi des agressions entre les peuples Dogon et les peuples Peul.
Konya, c'est le titre de la chanson de Bassetou Kouyaté. Ça raconte quoi, Konya ?
Konya en bambara, ça veut dire la jalousie. Et selon lui et selon tous les Africains d'ailleurs, quand on se laisse gagner par le sentiment de jalousie, il est difficile de coopérer avec qui que ce soit. On peut pas être sympa avec son voisin, avec celui qui est en face. Et selon Bassekou Kouyaté, la jalousie mine le processus démocratique, non seulement en Afrique en général, mais dans son Mali natal. Mais il faut quand même préciser que Bassekou n'a pas que des thèmes aussi sombres et aussi tristes. Il y a aussi des thèmes qui parlent d'amitié, de collaboration et bien entendu de drague, comment on peut se draguer comme on l'appelle dans les boîtes de nuit. Et il reprend aussi des classiques, on ne pourrait pas dire un classique du Mali, et ce classique à travers lequel on rendait hommage aux personnes qui ont marqué la société par leur intégrité, par leur humanisme. Et ça, ce sont des classiques qu'on joue depuis le XVIIe siècle par les ancêtres de Bassekou Kouyaté, et le titre de ce classique, c'est Poi.
Poi, ça raconte vraiment des gens honnêtes, des gens qui ne vendent pas leur corps à cause de l'argent, qui ne changent pas leurs paroles à cause de l'argent, des gens dignes, quoi, ceux qui sont dignes.
Intègres.
Intègres, c'est ça, le Poi.
Niko finifro, finifro bie velado. Niko zanyafro, souliez zanyafro di masegu. Dessa ningulo fakare animanya. Katodu gunana ka fere ka sibulu la ka sabu di wala. Nivora bamana esegu beladu ani jijeni.
Voilà, ça c'est un des extraits de l'album Miri. Miri qui en bambara veut dire réfléchir ou prise de conscience. Et Miri, c'est le titre du nouvel album du Malien Bassekou Kouyaté. Et les Franciliens pourront le découvrir le 25 mars à la Marbrerie de Montreuil dans le cadre du festival Banlieue Bleue.
Merci Soro Solo. On se retrouve mercredi prochain, on sera au rendez-vous. Tout de suite, eh bien, on se quitte avec un trio de choc. À nous, les petites anglaises de Slits pour le NRV.
You know I love you more.
La soul de Marvin Gaye passait à la moulinette punk de The Slits en 79. La programmation était signée Jean-Baptiste Audibert. Le NRV, première partie, c'est fini. Merci Nicolas Briançon, merci François Vincentelli et merci David Goudreau. On va se retrouver dans 15 minutes, sans vous, mais avec d'autres invités, après le journal et avec ça. Ça marche pour le climat. Et oui, c'est le rendez-vous tout à l'heure. Allez, le rendez-vous est pris. Alors à tout de suite.